Alors merci à vous d'être là malgré la pluie, peut-être la neige pour ceux qui viennent de banlieue. Merci également aux intervenants d'avoir accepté de débattre à une heure aussi tardive. Je voudrais commencer par excuser Françoise Saban, qui est responsable des cercles de formation de l'EHESS et qui aurait souhaité introduire ce nouveau cycle de rendez-vous de crise sur le travail, mais qui malheureusement est clouée au lit par une grippe et donc n'a pu se joindre à nous. Alors, les cercles de formation, c'est le service de formation continue de l'EHESS qui se donne pour mission la diffusion de la recherche. Et c'est dans ce cadre qu'ont été lancés à partir de 2009 les rendez-vous de crise qui s'attachent tout particulièrement à décortiquer des questions d'actualité sociale et économique. L'année dernière a été consacrée aux élections présidentielles et nous reprenons cette année le cycle avec des questions économiques et sociales avec le travail. Quatre conférences débats sont au programme de ce cycle autour de quatre questions. La première question est celle du travail et de ses valeurs, donc qui sera discutée ce soir. La deuxième question portera sur les recompositions du travail en lien avec de multiples défis liés à la flexibilité, la tertiarisation, mais également les restructurations, la participation des salariés, les délocalisations. Ça sera le 25 mars. Le 8 avril, la troisième conférence sera consacrée aux conséquences de ces recompositions, en particulier les inégalités liées au travail, qui seront appréhendées plus particulièrement sous l'angle des inégalités de revenus en France, mais aussi sous l'angle de la redistribution du travail et des richesses à l'échelle du monde. Et enfin, une dernière conférence débat au mois de mai portera sur qu'on a appelé les maillons faibles de ces mutations du travail. Et là, l'attention portera plus particulièrement sur les femmes, les juniors, les seniors, ou ceux qu'on appelle les juniors, les seniors, et les travailleurs immigrés. Donc pour ce soir, le travail et ses valeurs, en lien avec les normes d'emploi, mais aussi les finalités individuelles et collectives du travail, en lien également avec une interrogation sur ce qui fait la valeur du travail, sur la manière dont ce qui vaut en matière de travail est défini et par qui. Donc c'est tout le problème de la valuation et des instances de valuation et d'évaluation également en lien avec le travail qui sont posées à travers ce questionnement. Est-ce que la crise de 2008 et ses conséquences ont changé quelque chose à la manière dont nous considérons le travail et ses valeurs, hein? Ou est-ce qu'on se situe dans une continuité? C'est une des questions à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Est-ce que des valeurs nouvelles, ou en tout cas, est-ce que des priorités de valeurs, des hiérarchies de valeurs nouvelles ont émergé en lien avec cette crise et la manière de penser le travail? Est-ce que des hiérarchies de valeurs contradictoires, éventuellement, peuvent être identifiées? Et est-ce qu'il y a débat autour de ça aujourd'hui dans la société française? C'est une autre thématique en lien avec cette séance. Pour débattre de ces questions, nous avons invité quatre collègues. Dominique Méda, qui est sociologue à l'Université Paris Dauphine. Antoine Lioncamp, qui est juriste à l'Université Paris 10 Nanterre et à l'EHESS. Patrick Fridançon, qui est censé être là, mais qui va sans doute nous rejoindre très vite, qui est historien à l'EHESS, et Jérôme Gauthier, qui est économiste à l'Université de Paris 1 et qui est également directeur de l'Institut de sciences sociales du travail de Paris 1, qui aura la délicate charge d'animer et de modérer ce débat entre les trois premiers intervenants. Encore une fois, merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée avec de bonnes discussions.
Merci beaucoup. Donc, comme vient de le dire Bénédicte Zimmermann, Patrick Fridençon vous prie de l'excuser. Il va arriver avec un peu de retard, mais il devrait nous rejoindre assez vite. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole aux deux intervenants qui sont ici. Donc, on écoutera dans un premier temps notre collègue sociologue, donc Dominique Méda. Et puis ensuite, Antoine Yoncamp présentera le point de vue du droit. Et enfin, j'espère, Patrick Fridençon présentera le point de vue de l'historien. Donc, sans plus tarder, je passe la parole à Dominique Méda.
Merci beaucoup. Merci Bénédicte de l'invitation. Merci Jérôme pour l'introduction. Alors, j'ai intitulé mon propos « Y a-t-il une crise de la valeur travail ?» Et j'ai eu envie de faire un PowerPoint parce que j'ai pas mal de graphiques à vous montrer qui viennent d'exploitation des enquêtes existantes. Et j'ai trouvé que ça serait plus intéressant. Alors, vous savez que ces dernières années, et pas seulement ces dernières années, depuis maintenant bien une bonne dizaine d'années, on a eu un retour en force de la question du travail et de la valeur travail dans le débat public. Il y a eu la question du harcèlement au travail avec le succès des livres. Il y a eu une vague de suicides au travail qui a été très médiatisée, qui a entraîné un certain nombre de réactions. Il y a eu la montée de la thématique des risques psychosociaux et plusieurs rapports qui ont été consacrés. On a pu mettre aussi en évidence un lien assez fort entre le désir de partir en retraite et ce qu'est devenu le travail. Et puis il y a eu un débat pendant les deux dernières campagnes présidentielles sur la dégradation de la valeur travail. Dégradation de la valeur travail, les signes de la dégradation de cette valeur travail seraient l'appétence pour le loisir. Je fais allusion par exemple aux thèses qui ont été développées par un important économiste français mais travaillant aujourd'hui aux États-Unis, hein, Olivier Blanchard, qui explique par notre plus fort forte appétence pour le loisir, à nous Français, c'est une thèse qu'on entend à nouveau en ce moment, notre trop forte appétence donc pour le loisir, eh bien qui explique la différence de niveau de vie entre les États-Unis et la France. Et cette appétence pour le loisir, elle prendrait la forme de pré-retraites encore nombreuses, de notre législation sur les 35 heures, et aussi du développement de ce qu'on appelle parfois aujourd'hui l'assistanat et donc des prestations de solidarité. Et puis, ces signes de dégradation, on les verrait également dans la faible appétence des jeunes pour le travail, c'est-à-dire avec l'idée que les jeunes seraient devenus paresseux, infidèles, individualistes, matérialistes et nomades. Pour les autres, la dégradation de la valeur travail viendrait au contraire de la précarisation du travail, le fait que la condition salariale s'est considérablement dégradée et du fait qu'aujourd'hui, le capital est mieux rémunéré, mieux récompensé en quelque sorte que le travail. Alors, je vais vous présenter les résultats d'une recherche européenne que nous avons faite en 2008 avec plusieurs pays européens et au cours desquels nous avons à la fois exploité les enquêtes européennes existantes et nous avons fait des entretiens approfondis dans 6 pays européens sur la question du rapport au travail des Européens et plus précisément l'idée c'était de mettre à l'épreuve l'idée selon laquelle les jeunes auraient un comportement différent au travail, autrement dit que les jeunes aimeraient moins le travail que les plus anciens. C'était au centre de notre recherche. Donc je vais vous présenter les résultats issus de ces enquêtes. Premier résultat, ça c'est un résultat issu de l'enquête, d'une enquête qui s'appelle l'EVS, l'European Value Study. Ça c'est la vague 99, mais je vais vous montrer après la vague 2008 qui dit des choses très peu différentes. Vous voyez que tout ce qui est en bleu foncé, ce sont les gens qui disent que le travail dans leur vie est très important. Alors on voit deux choses sur ce graphique. On voit d'abord qu'il y a énormément de bleu foncé, c'est-à-dire que beaucoup de gens en Europe, du Danemark jusqu'à la Pologne, sont nombreux à penser que le travail est très important. Mais deuxième nouvelle, il y a quand même une hétérogénéité en Europe, puisque ça passe du Danemark et de la Grande-Bretagne, où les personnes sont 40% à dire que le travail est très important, à un groupe de pays qu'on va regarder de plus près, Pologne, Malte, la Roumanie, la Lettonie et la France, qui est là avec ces pays, de manière très curieuse, où les personnes sont entre 70 et 80% à trouver que le travail est très important. Ce que je vais vous inviter à essayer de comprendre, c'est pourquoi cette hétérogénéité et pourquoi notamment cette place très particulière de la France. Alors, plusieurs explications sont possibles. On peut se dire d'abord qu'il y aurait une capacité ou une tendance particulière de certains pays à répondre plus facilement « très ». C'est vrai, on sait que certains pays répondent plus facilement de manière, en choisissant les extrêmes, comme ça, de façon plus intense, hein, mais ça ne suffit pas à expliquer les différences. On peut également évoquer des différences de composition de la population, mais ça ne suffit pas non plus à expliquer. On peut évoquer des explications culturelles. Et vous voyez en effet qu'ici, on a des recoupements que, par exemple, contrairement à ce qu'avait expliqué le sociologue Max Weber, les pays à dominante protestante sont moins nombreux à trouver le travail très important que les pays à dominante catholique. Mais deux autres explications peuvent être mobilisées. Une explication qui s'appuie sur le niveau du produit intérieur brut et notamment le PIB par habitant, c'est-à-dire ce qu'on appelle en général la richesse d'un pays. Alors, il y a une corrélation positive entre l'attachement important au travail et le niveau de produit intérieur brut, mais ça n'explique pas la situation de la France. Et puis, il y a une explication qui marche pour la totalité des pays, qui est l'importance du niveau de chômage. Plus votre taux de chômage est élevé, plus les personnes accordent de l'importance au travail. Et ça marche aussi, cette explication, pour la France. C'est une explication que Baudelot et Golac, en 1997, avaient mis en évidence. Là, je vous montre leur résultat. Hein. Ils avaient montré que les personnes au chômage accordaient plus d'importance au travail que les personnes qui étaient en emploi stable. Alors là, je vous montre, c'est le graphique 2008, mais c'est à peu près la même chose. Hein. C'est-à-dire qu'on voit aussi beaucoup de bleu foncé et une même position. Vous voyez, la France est ici. Alors, donc, on retient qu'il y a un lien fort entre l'importance accordée au travail et le taux de chômage, ce qui peut s'expliquer par le fait que l'absence de travail fait souffrir et qu'on désire d'autant plus ce qui vous fait défaut. Mais cette explication ne suffit pas, et donc nous avons essayé d'en chercher d'autres, et nous avons en particulier, je dis nous parce que j'ai fait ce travail avec beaucoup d'autres collègues, et notamment avec une collègue du Centre d'études de l'emploi qui s'appelle Lucie Davoine, et on a publié sur le site du Centre d'études de l'emploi un rapport sur ces enquêtes. Donc, nous avons essayé de voir si, dans cette importance accordée au travail, ce qui était essentiel, est-ce que ce sont des dimensions instrumentales qui importent, c'est-à-dire je suis attaché au travail parce que le travail m'apporte un revenu ou une certaine sécurité de l'emploi, ou bien est-ce que je suis attaché au travail pour d'autres raisons, par exemple parce que le travail pourrait me permettre de m'épanouir, de me réaliser. Alors, si on regarde ces deux dimensions-là, on peut les appréhender à travers deux questions. Première question, pourcentage de personnes d'accord avec la phrase suivante, le travail est juste un moyen de gagner ma vie. C'est-à-dire, ça représente, cette question, elle nous permet d'appréhender la dimension instrumentale du travail. Le travail, c'est juste un moyen de gagner un salaire. Et vous voyez là-dedans que la France, elle est ici, c'est la petite ligne rose, là. Bah, la France occupe une position moyenne parmi les pays européens interrogés. Elle est au-dessus, par exemple, du Danemark et de la Suède, mais moins de 30% disent que le travail est juste un moyen de gagner sa vie. Donc, ça serait pas l'importance de la dimension instrumentale qui expliquerait l'attachement accordé au travail. En revanche, il y a quelque chose, là encore du côté français, qui pourrait expliquer, outre le haut taux de chômage, qui pourrait expliquer l'attachement particulier des Français au travail, et qui est recouvert par cette expression un peu barbare de « intérêt intrinsèque du travail ». C'est-à-dire un ensemble qui recouvre ce que je fais au travail, l'activité que je déploie au travail, la possibilité que j'ai de m'exprimer, de me réaliser dans mon travail, mais aussi les relations sociales que j'ai dans mon travail. Et vous voyez sur ce graphique que sur cette question où il s'agit de voir le nombre de personnes qui déclarent très important l'intérêt intrinsèque du travail, eh bien la France vient en première position avec 68% des personnes qui déclarent cela. Donc, pardonnez-moi. Donc, ce que je vous propose de retenir dans un premier temps, c'est que il y a en France une forte importance accordée au travail, qui semble s'expliquer pour l'instant de deux manières. De manières assez différentes, qui semblent avoir peu de rapport l'une avec l'autre. D'une part, un taux de chômage très élevé depuis longtemps. D'autre part, une importance particulière attachée au contenu du travail et à ce qu'on peut appeler, à ce que par exemple des sociologues comme Engelhardt ont appelé la dimension post-matérialiste du travail. C'est-à-dire le travail, non pas comme moyen de gagner un salaire, mais comme espace, activité, où je peux m'exprimer et me réaliser. Une fois qu'on a dit ça, les choses ne sont pas finies parce qu'il y a ce qu'on a appelé, avec Lucie Davoine, un paradoxe français. Le paradoxe étant que tout en appréciant énormément le travail, les Français sont également, ça c'est pour Monsieur Taylor, pour Titan, les Français sont également les plus nombreux à souhaiter que le travail prennent une place moins grande dans leur vie. Je vous montre là l'équivalent du graphique de tout à l'heure, où on voyait que les Français étaient ceux vraiment qui disaient que le travail était les plus nombreux à dire que le travail était important. Vous voyez que là, la France est à nouveau en première position ici. Et tout ce bleu clair, c'est ceux qui disent, donc ils sont plus de 65%, hein, sont ceux qui disent que ça serait une bonne chose que le travail prenne une place moins grande dans notre vie. Et on trouve curieusement juste avant nous la Grande-Bretagne, où donc à la fois les Anglais sont des gens qui disent que le travail c'est pas très important, mais qui en même temps voudraient que le travail prenne une place encore moins grande dans leur vie. Donc nous, c'est un autre type de paradoxe, grand attachement au travail, mais volonté qui prenne une place moins grande. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Selon nous, quatre explications. La qualité des relations sociales, les conditions d'exercice du travail et de l'emploi, l'articulation du travail et d'autres activités, et le besoin de plus de temps pour des activités également considérées comme importantes. Ça veut dire que nous essayons de mêler des explications à la fois négatives. Je voudrais que le travail prennent moins de place dans ma vie parce qu'il est devenu très difficile à exercer. Et puis je voudrais qu'il prenne moins de place dans ma vie parce que j'ai aussi des choses très importantes à faire à côté du travail. Je vous illustre chaque fois par un graphe chacune de ces quatre affirmations. Ça, c'est le pourcentage de personnes qui décrivent les relations entre la direction et les employés comme très bonnes ou assez bonnes. Vous voyez que la France est dans la position la plus basse, même si c'est pas honteux d'avoir que un petit peu plus de 50% des gens qui disent que les relations sont bonnes ou assez bonnes. Vous voyez que la France est quand même en dessous d'autres pays et que c'est quelque chose d'assez bien connu. C'est par exemple l'explication que Thomas Philippon avait mise en avant en 2007 pour expliquer la crise du travail. Lui, il disait, il n'y a pas de crise du travail, il y a une crise des relations sociale et de la relation entre les employés et les salariés. Ensuite, trois slides pour vous illustrer la difficulté actuelle d'exercice des conditions de travail et d'emploi. Ceci, c'est le slide qui montre le pourcentage des personnes qui estiment que leur travail est toujours ou souvent stressant. Vous voyez que c'est des taux extrêmement hauts, plus hauts que dans d'autres enquêtes. Hein, ça, c'est l'ISSP, l'International Social Survey Programme. Là, vous avez 47% des Français qui disent que leur travail est toujours ou souvent stressant. Derrière, autre manière d'illustrer ceci, le pourcentage des Français, ici en dernière position, qui trouvent que leurs possibilités de promotion sont élevées. Donc mon travail est stressant et en plus, je ne peux pas monter dans la hiérarchie et j'ai des possibilités de promotion très peu élevées, puisque vous voyez, ils sont 14% ici. Et puis un indicateur un peu synthétique pour montrer tout ça, pour résumer tout ça, c'est le pourcentage de personnes qui se déclarent complètement satisfaits ou très satisfaits de leur travail. Et là encore, vous voyez, la France est dans la position la plus faible. Donc, et ça évidemment, ça a été développé ensuite dans un certain nombre de rapports, hein, la difficulté actuelle des conditions d'exercice du travail et de l'emploi. Là, je vous illustre la troisième explication, celle qui consiste à dire que le problème vient d'une mauvaise articulation entre le travail et le hors-travail, d'une certaine manière. Là, vous voyez, c'est le nombre de personnes qui s'inquiètent de problèmes professionnels en dehors du du travail, comme si le travail débordait sur le reste de la vie et que les gens souffraient de cette espèce d'absence d'étanchéité et du fait qu'il y a une charge mentale. Et j'emporte mon travail chez moi, j'y pense absolument tout le temps. Le travail me poursuit sans arrêt. Autre manière de présenter cela, hein, le pourcentage de personnes qui rentrent toujours ou souvent épuisées, avec une petite faute d'orthographe, épuisées après le travail. Même idée, hein, mon travail m'a complètement absorbée et quand je rentre chez moi, je vais en regarder la télé parce que je ne suis plus bon à rien. Idem, être trop fatigué pour apprécier les choses que l'on aimerait faire à la maison. C'est un résultat issu de la dernière enquête sur les conditions de travail de la Fondation Dublin, donc vague 2010, où on voit en effet, où donc la question c'est la conciliation des horaires de travail avec la vie privée, et on voit en effet que la France, avec d'ailleurs l'Italie, hein, présente des niveaux élevés, un pourcentage élevé de personnes qui trouvent que leurs horaires de travail ne se concilient pas bien ou pas bien du tout avec leur vie personnelle. Et je mets tout ça en lien avec ma quatrième explication, hein, en lien avec l'importance accordée à la famille par les personnes, pour illustrer donc que ça n'est pas seulement le fait que le travail présente désormais des conditions d'exercice difficiles. C'est pas seulement pour ça que les personnes souhaitent que le travail occupe moins de place, mais aussi parce qu'il y a, je dirais, d'autres activités ou d'autres sphères ou domaines de vie attirants ou qui constituent également l'identité des personnes et pour lesquelles les personnes souhaitent donc voir la place du travail réduite ou encore, on pourrait dire, une meilleure articulation entre travail et hors travail. Là, je vais passer rapidement. Ce sont des graphes qui illustrent le fait que c'est un petit peu la réponse à la question de notre programme de recherche. Est-ce que vraiment les jeunes sont moins attachés au travail? Est-ce que la valeur travail est moins développée chez eux? Donc ce graphe vous illustre le fait qu'il n'en est rien, puisque là, vous voyez, lorsqu'on demande aux gens s'ils seraient contents d'avoir un emploi rémunéré, même s'ils n'avaient pas besoin d'argent, ou si l'emploi c'est juste un moyen de gagner de l'argent, les jeunes sont toujours ceux qui sont les moins instrumentaux, en quelque sorte. Ce sont toujours ceux qui sont le plus attachés aux dimensions expressive du travail. Et ici, c'est la même chose. Est-ce que c'est important dans un travail de venir en aide aux autres personnes ou d'être utile à la société? Les jeunes, là encore, sont très nombreux, plus nombreux que les autres tranches d'âge, à déclarer que c'est très important de venir en aide aux autres personnes et d'être utile à la société. Alors, je m'arrête juste un instant sur l'importance de la catégorie socio-professionnelle en vous montrant juste les résultats d'une enquête spécifiquement française, cette fois-ci, où on demandait aux personnes, là encore, hein, si le travail était très important ou qu'est-ce qui les définissait le mieux. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est sur le fait que si les CSP disent à peu près identiquement que la famille est très importante, vous voyez, 86, 87, 85, 86%. Donc, l'ensemble des CSP est attaché à peu près de la même manière à la famille. En revanche, lorsqu'il s'agit de parler du métier, de ses études, du travail qu'on exerce, alors les choses sont très différentes. Entre, vous voyez ici, des cadres et professions intellectuelles supérieures qui sont 71% à dire que c'est le travail qui est ce qui les définit le mieux. Les agriculteurs, 69%, les indépendants, 68%. Et puis, vous voyez ici, par exemple, les ouvriers non qualifiés, 33%. Donc, peut-être que le fait de s'identifier plus ou moins au travail, évidemment, n'est pas identiquement partagé dans l'ensemble de la population. Je passe maintenant à quelques derniers résultats d'analyse. Une analyse française qui n'a rien d'une enquête scientifique, qui était un questionnaire qui avait été posé par Radio France sur son site et auquel un certain nombre de personnes avaient répondu avec un énorme biais dans l'échantillon, le biais étant que ce sont principalement des cadres, des gens très diplômés et des gens plutôt proches des missions de service public sans être des fonctionnaires qui ont répondu. Et je trouve que ça nous permet de faire un focus sur cette population-là qui est un focus très, très intéressant. Si on retient de nos enquêtes européennes que le résultat principal, c'est qu'il y a aujourd'hui, je vais dire les choses différemment de ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, qu'il y a des attentes extrêmement fortes qui sont posées sur le travail. Alors, des attentes extrêmement fortes posées sur le travail, ça veut dire pas seulement en termes de salaire, donc, mais des attentes de réalisation de soi, d'expression de soi. On attend principalement du travail de pouvoir s'exprimer, d'exprimer sa personnalité et également d'avoir des relations avec les autres. Relations non pas avec la grande société, mais avec la petite équipe au quotidien. Et si dans toute l'Europe, ce type de tendance est à l'œuvre, il l'est, semble-t-il, encore plus en France, et il l'est nettement plus chez les jeunes que dans les autres tranches d'âge. Je passe maintenant à ce focus sur cette population particulière de Radio France. Hein. Là, je vous ai montré la spécificité, mais on ne va pas rentrer dans le détail, je vous l'ai dit, hein, la spécificité des gens qui ont répondu par rapport au recensement de l'INSEE. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que les attentes de ces personnes, comme ce que je vous disais tout à l'heure, les attentes de ces personnes, elles sont de nature expressive ou post-matérialiste. Vous voyez que lorsqu'on demande aux gens quelles seraient pour vous les deux qualités principales du travail idéal, ils répondent que ce qui importe, c'est un travail qui nous permet de continuer à apprendre. Donc quelque chose de très, très post-matérialiste ou qui donne l'impression de réussir quelque chose. Et puis, quand ces personnes pensent au métier de leur enfant, quelle est la priorité ? C'est un métier épanouissant. C'est ce terme-là qu'on retrouve toujours, s'épanouir dans son travail. En revanche, quand on leur demande d'écrire ce qu'ils ressentent aujourd'hui dans leur travail, si 30% disent que c'est bien ou que c'est formidable, tout le reste disent des choses assez moyennes, assez médiocres sur leurs conditions d'exercice du travail et de l'emploi. Je suis fatiguée, 27%. C'est dur, mais j'y arrive, 24%. C'est tellement dur que j'ai envie de partir, 13%. Donc une population très diplômée, avec des attentes post-matérialistes très fortes et, comme notre population de tout à l'heure, française, déçue par rapport à ce qui se passe dans le travail. C'est-à-dire, c'est là que je voulais en venir, hein, encore plus dans cette population, c'est peut-être ce qu'elle nous montre encore mieux que l'autre tout à l'heure, des attentes énormes qui sont extrêmement déçues. Voilà. Des attentes peut-être encore plus fortes qu'ailleurs et encore plus post-matérialistes qu'ailleurs, mais qui sont encore plus déçues qu'ailleurs, donc avec une espèce de décalage énorme. Quel est, à votre avis, j'en ai pour quelques minutes, quelle est, à votre avis, la priorité pour améliorer le travail aujourd'hui ? Arrêter la course à la rentabilité et à la productivité, permettre aux gens de travailler mieux et tous, et prendre le temps de faire du travail de qualité. Donc, une revendication de qualité. Et donc, j'en termine. Là, je voulais juste vous rappeler que notre concept de travail, il est constitué de plusieurs couches de signification, hein, que le travail est en même temps un facteur de production, l'essence de l'homme au sens de ce que nous a raconté Marx, c'est-à-dire que le comble de l'activité humaine, c'est de pouvoir s'exprimer dans son travail. Et puis, c'est la société salariale. Et je voulais juste vous mettre, vous allez juste regarder les petits passages soulignés, c'est mon avant-dernière diapo, c'est une très belle citation de Marx dans les manuscrits de 44, où Marx écrit « Supposons que nous produisions comme des êtres humains, chacun de nous s'affirmerait doublement dans sa production soi-même et l'autre », et il termine, je vais directement à la fin, par « nos productions seraient autant de miroirs où nos êtres rayonneraient l'un vers l'autre ». Et donc, je termine par une question, en fait. Hein. Si les attentes des personnes sont vraiment des attentes de réalisation de soi et d'expression de soi dans le travail, si le travail, c'est ce qui me permet de dire à l'autre qui je suis, et de lui montrer le fond de ma personne, en quelque sorte. Est-ce que nos organisations de travail sont prêtes à faire droit aux attentes que les individus posent sur le travail ? À ce moment-là, peut-être qu'il faudrait un changement très profond de la définition et du rôle de l'entreprise, ce que nous proposent par exemple Armand Hatchuel ou Blanche Segrestin ou Isabelle Ferreras dans leurs derniers ouvrages. Ou bien est-ce qu'il faut surtout essayer de se concentrer et réclamer un travail décent et sans plus, ou bien est-ce qu'il nous faut rester au travail à la Adam Smith, hein, c'est-à-dire au travail marchandise. Voilà, donc je termine par ces questions-là. Si vraiment les individus attendent du travail une possible réalisation de soi, est-ce que nos organisations sont prêtes à faire droit à ces attentes ? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, sans transition, je passe la parole tout de suite à Antoine Yoncan.
Oui. Alors, j'ai un peu hésité à parler directement très vite de droit. Pourquoi ? Parce que je vais essayer de vous le montrer, le droit parle très peu du travail. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Il parle très peu du travail, même si chacun s'accorde à parler un peu de droit du travail. Et surtout, dans la période actuelle, on rend souvent le droit responsable de la situation contemporaine, c'est-à-dire notamment du chômage. L'ensemble des pays européens sont marqués par une sorte de critique absolument radicale du droit, du système juridique, du droit du travail, qui serait responsable de notre mal-être, de notre malaise. Les pays ne peuvent plus dévaluer, comme ils n'ont plus d'armes budgétaires, finalement, ils n'ont plus qu'une arme, c'est l'arme normative. Il faut changer tout le système juridique et le bonheur sera de nouveau dans le pré. Ça oblige à essayer de comprendre ce que le droit dit du travail et s'il est aussi responsable qu'on le dit de notre malaise social. Alors, je voudrais d'abord essayer de montrer un peu quelle est la place le statut du travail dans le droit. Ce n'est pas très commode, mais je vais le faire non pas par un PowerPoint, comme Dominique, mais à travers une histoire. Une histoire qui a fait couler pas mal d'encre, qu'on appelle l'histoire de l'île de la tentation. Et puis ensuite, j'essaierai de montrer comment, au fond, le droit ne promeut pas le travail, ne le valorise pas particulièrement. S'il faisait quelque chose, c'est plutôt de le dévaloriser. Mais il parle de quelque chose d'autre, et j'essaierai de montrer quoi. Pas du travail. Alors, d'abord, essayer de regarder un peu quel est le statut du travail dans le droit. Et je parle de cette histoire, peut-être vous en souvenez-vous, mais vous n'êtes certainement pas des amateurs de ce genre de télé-réalité. Des jeunes gens très bien de leur personne, des jeunes femmes très bien de leur personne, qui sont enfermés dans une île ou dans un lieu magique et qui sont supposés être naturels dans leur tentative de séduction de jeunes femmes ou de jeunes hommes qui ne sont pas leurs partenaires, pendant que leurs partenaires habituels sont également l'objet de tentatives de séduction d'autres personnes. Et la télé-réalité, puisque c'est un exercice de télé-réalité, paraît fondée sur l'idée que ces personnes vont être spontanées dans leur, à la fois dans leur résistance à la tentation, dans leur acceptation de la tentation. Et si jamais il était montré que les scènes étaient répétées, qu'il y avait une mise en scène, alors toute la télé-réalité s'effondrerait elle-même parce que la réalité deviendrait une supercherie. Eh bien, il a fallu discuter de cela parce qu'un certain nombre de séducteurs et de séductrices ont assigné ou fait citer devant le Conseil des prud'hommes, donc le juge du travail, les producteurs, pour voir reconnaître qu'entre le producteur et eux, il y avait un contrat de travail. Alors, la thèse des producteurs, et on peut l'imaginer, c'était un vrai syllogisme absolument parfait. Le travail suppose que le salarié loue sa force de travail. Certains auraient dit la vende, mais enfin, là, on était plutôt sur le registre de la location. Or, les candidats se bornaient à exposer leur intimité. Donc, il n'y avait aucun travail. Voilà la thèse des producteurs. Et il disait autrement, pour travailler, il faut faire autre chose qu'être soi. Sinon, tout serait travail, puisqu'on serait toujours soi-même, donc toujours au travail. Ce litige, il a été jusque devant la Cour de cassation. Et tout n'est pas terminé. Alors, évidemment, ce que les producteurs oubliaient, délibérément, c'est qu'il y avait derrière des bénéfices très substantiels, des guerres d'audience, et il y avait surtout des conditions de travail assez draconiennes, parce que les séducteurs et séductrices étaient supposés être disponibles 24 heures sur 24, même réveillés, dans des attitudes que je ne décris pas. Le PowerPoint m'aurait permis de ne pas en parler, d'ailleurs. Ouais. Alors, je laisse de côté un débat qui a eu lieu, mais qui est passionnant, mais sans vouloir trop l'évoquer. Certains disaient, oui, c'est un travail, mais c'est un travail d'artiste. Bon, pourquoi ? Parce que l'artiste, il est toujours à la fois lui et un autre. Et si on admet qu'il travaille, alors ils font un travail d'artiste. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas d'œuvre, et des artistes sans œuvre, ce n'est pas tellement facile à imaginer. Alors, on est resté sur cette idée que le débat a tranché, c'était de savoir s'il y avait travail ou non. Et la réponse que la Cour de cassation, la plus haute juridiction sociale française, a donnée, elle oblige à comprendre quel est le statut du travail dans le droit. Et à faire un détour par quelque chose qui est très enfoui, très complexe, que je peux présenter autour d'une question, mais quel est donc l'objet du contrat de travail? Quel est donc l'objet? Qu'est-ce qu'il y a au milieu de ça? Alors, il y a une thèse ancienne que beaucoup de progressistes ont soutenue. Ce qu'il y a dans le travail, c'est la personne elle-même, c'est son corps. Le travailleur, il est engagé. C'est insupportable, mais c'est ainsi. Il faut être réaliste et dire que dans le travail, c'est la personne même qui est présente. Et puis, il y a une thèse opposée, celle de Adam Smith, si l'on veut. Non, mais le travail, c'est un bien, c'est une marchandise. Et donc, ce qui est échangé, livré, donné, loué, tous les mots sont possibles, on peut en discuter, c'est une marchandise. Le droit échappe à cet étau. Ce n'est ni la personne, ni le travail comme marchandise qui est l'objet du contrat. C'est très important, ce qui est l'objet du contrat, c'est quelque chose qui est dissocié de la personne, et ça va permettre de penser la personne, dissocié de la personne, mais qui n'est pas totalement sans lien avec la personne. On va appeler ça la prestation de travail. Et la prestation de travail, c'est un prolongement de la personne sans être la personne elle-même. Le droit fait de la prestation de travail la référence fondamentale, et c'est ce qui permet d'ailleurs, Marx l'avait déjà dit d'ailleurs, il l'avait pensé, ça c'est une des... dans le Capital, ça... une des analyses les plus fortes, ça permet au système capitaliste d'assimiler la valeur de la force de travail et la valeur du travail lui-même, qui sont fondues dans la valeur de la prestation de travail. Au fond, le droit construit une sorte d'artefact à travers cette prestation de travail, et en fait, au fond, l'objet du contrat, c'est ça qui est régi par les règles, c'est ça qui est fait l'objet d'évaluation. Et évidemment, on pourrait être tenté, si on ne comprend pas le rôle du droit, de dire que c'est un pur artifice, mais en réalité, c'est pas un pur artifice, parce que on peut dire au moins que c'est une part de la réalité qui se ment sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne dit pas tout, cette réalité, mais c'est une part de la réalité construite à travers ces analyses-là. Et la Cour de cassation, elle a considéré que en étant encadré, en répondant aux sollicitations du producteur, en étant disponible à tout moment, en acceptant de répéter certaines scènes, de se dicter même de temps en temps leurs émotions, eh bien, ces séducteurs et ces séductrices fournissaient une prestation de travail. La leçon, évidemment, pour nos sociétés, c'est qu'aucune tâche ne répugne à se glisser dans un contrat de travail. Mais en même temps, ça montre que, en construisant cet artefact, le droit permet de penser la personne et sa dignité. Elle peut revendiquer d'être reconnue dans la fourniture de cette prestation de travail puisqu'elle n'est pas l'objet même du contrat. Et c'est cette dissociation qui fait que des revendications peuvent être présentées au nom de la dignité dans le travail, des libertés dans le travail, puisque ça n'est pas la personne elle-même qui est engloutie dans le contrat. Alors vous me direz, c'est une belle découverte parce que le droit, au fond, émancipe. En faisant de la prestation de travail l'objet du rapport de travail organisé, le droit permet de penser la personne et ses demandes, ses aspirations, ses revendications. Le droit paraît, d'une certaine manière, promouvoir la personne, mais est-ce qu'il promeut le travail lui-même ? Et ça, je vais essayer de montrer que non. Il ne promeut pas le travail. Et pour faire la petite analyse, il faut faire un détour par le rôle qu'occupe dans le contrat de travail, dans la société salariale, si on veut, qui est encore la partie la plus importante, et on va voir, elle n'est pas prête, à mes yeux, de décliner, la place qu'occupe la subordination. Pourquoi ? Parce que le contrat de travail, c'est donc le contrat par lequel on fournit une prestation de travail en se plaçant sous la subordination d'une organisation. Et c'est les animateurs ou responsables de cette organisation qui rémunèrent sous la forme du salaire. Alors il faut faire le détour par cette subordination qui est la caractéristique de la prestation de travail dite salariée ou subordonnée. Et faire une petite histoire de cette notion et de sa place. Elle a été inventée, elle apparaît, il y a eu des... Cottreau a fait des travaux formidables là-dessus, donc je résume à grands traits, et même je caricature. Cette notion, elle a été inventée, disons, dans le dernier tiers du XIXe siècle, à la fois par des gestionnaires d'entreprises, des gestionnaires d'organisations publiques, des juristes, et elle va devenir, ça va être son premier rôle, un moyen de qualifier les travaux et de les distinguer les uns des autres. Travail subordonné d'un côté, travail non subordonné de l'autre. Donc moyen de qualifier. C'est ça son premier rôle instrumental. Puis, et c'est ça la naissance de la société salariale, elle va être, la subordination, un moyen d'unifier tous les travaux subordonnés et de faire que tous les travailleurs salariés progressivement se reconnaissent ou se considèrent comme membres de la société salariale. Un moyen d'unification. Elle joue aussi, elle a toujours joué un rôle répressif, puisque ça légitime le pouvoir dont les travailleurs sont les destinataires, si j'ose dire, ou les cibles, en tout cas. Mais ce qu'on oublie peut-être trop, parce que ça c'est vraiment le mouvement du XXe siècle, c'est le mouvement de démocratisation de la subordination, c'est-à-dire la subordination, elle en vient à fonder des droits. Ça, c'est ça le grand mouvement. Au point que, dans notre société, la subordination devient attractive. Et un cadre dirigeant, voire un dirigeant d'entreprise, son rêve, c'est d'avoir un contrat de travail. Parce qu'il sait qu'à travers le contrat de travail, il accède à certains réseaux d'avantages, de protection, de garanties. C'est ça la fonction unifiante de la subordination, du plus précaire jusqu'au plus fort. Du plus précaire jusqu'au plus fort. Et cette démocratisation de la subordination, au fond, elle montre quoi ? Que la subordination, ce à quoi elle donne accès, c'est à un statut. Et je vais employer mes mots, même si je reconnais que tout le monde n'utilise pas les mêmes termes. Au fond, ce que valorise le droit, c'est l'emploi et non pas le travail. Si on accepte de considérer que l'emploi, c'est le statut auquel le travail subordonné donne accès. Et donc, si on veut lire à travers les lunettes d'un juriste un peu ouvert à l'anthropologie du travail, si on veut lire l'évolution et la crise actuelle, c'est une grande crise de l'emploi et non pas du travail. Des secousses graves qui atteignent le statut de ceux qui travaillent et non pas le travail lui-même. Je ne veux pas dire qu'il n'est pas secoué, il l'est probablement, mais ce que l'on voit notamment dans les grands débats actuels sur l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, les débats entre deux parties du mouvement syndical, c'est vraiment jusqu'où peut-on mettre en cause, non pas le travail, mais l'emploi. Hein ? Jusqu'où doit-on ? Et il me semble qu'il y a, en effet, un fort mouvement que je peux essayer de synthétiser, de mise en cause, non pas du travail lui-même, mais de mise en cause du statut auquel le travail donne accès, une mise en cause qui est soit directe, à travers le retour en force de la subordination brutale. Hein, si j'avais le temps, je montrerais par exemple, l'Espagne est en train de connaître un mouvement absolument incroyable. Un employeur, depuis l'année 2012 en Espagne, et il y a des analyses qui montrent que les employeurs ont très bien compris ça, il peut unilatéralement modifier le lieu de travail, les fonctions et la rémunération. Seul, sans le consentement, dès lors que c'est collectif. Bon. Alors, quoi de plus attentatoire au statut ? Parce que l'élément de base du statut, c'est que ce sur quoi on s'est mis d'accord ne peut pas être touché sans un consentement nouveau. En Espagne, c'est fini. En Italie, pour partie aussi. Et dans l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, dont le Parlement est supposé reprendre la teneur dans quelques temps, il y a des mécanismes qui permettent à l'entreprise, aux dirigeants, on va dire, parce que l'entreprise, c'est quelque chose de très compliqué, aux dirigeants d'entreprise, de mettre en cause les fonctions et le lieu de travail de manière très radicale et moyennant un accord à certaines conditions, de mettre en cause même la rémunération. Donc il y a des mises en cause directes du statut. Et on peut dire le retour à une des formes multiples de diversité des conditions. Ça, c'est un premier mouvement. Et le deuxième mouvement, il est plus indirect, le deuxième mise en cause, et c'est là que j'aurai le temps, si on en discute, de parler de l'évaluation, c'est-à-dire réintroduire, là où il avait été chassé, l'évaluation par des valeurs marchandes, du travail lui-même, parce que le statut, c'est ce qui mettait à distance le salarié du marché. Le fait que les secousses ou les fluctuations qui atteignent la production, les demandes sur le marché, n'étaient pas répercutées de manière directe sur le salarié. Cette distance avec le marché, c'est le statut qui le donne. Le statut du fonctionnaire le montre encore plus, puisque le fonctionnaire lui-même, il ne doit pas subir d'une manière quelconque les variations des usagers, des prétentions, des aspirations des usagers. Mais même pour le travail subordonné dans l'entreprise privée, le statut était cet amortisseur, si j'ose dire, entre les fluctuations du marché et la situation du salarié. L'évaluation, les travaux sont assez nombreux maintenant, réintroduits notamment des mesures à travers la performance que la prestation de travail est supposée assurer sur le marché lui-même, sans la médiation du statut. Et puis, ces mises en cause indirectes sont aussi, évidemment, on trouve comme manifestation les formes d'organisation dont vous parlerez dans une des prochaines séances. Des formes d'organisation qui réintroduisent aussi des évaluations marchandes entre le travail et celui qui donne les instructions ou en tout cas profite des fruits ou des produits du travail. Vous voyez, donc le point de vue que je souhaitais rapidement développer, c'est que le droit permet la libération du travail, mais le droit ne promeut pas le travail. Le droit promeut l'emploi. Et à mes yeux, ce qui est en cause aujourd'hui dans les débats publics et aussi les discussions européennes. C'est sans doute moins le travail et ce que disait Dominique, je crois, le montrer, la valeur que les personnes attachent au travail, que l'emploi, qui est au fond un bien ou une aspiration de plus en plus difficile à satisfaire. Voilà ma thèse.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc je passe la parole à Patrick Frizenson qui vient de nous rejoindre.
Moi, je suis dans ce débat après la sociologue, après le juriste, l'historien de service. Donc, quel est mon message ? Il va être celui du temps long et celui du changement. Alors, le temps long, c'est de dire que le travail en soi n'existe pas. Il y a une activité productive qui est une activité de transformation et notamment de transformation de la nature. Et cette activité productive, elle est l'activité humaine par excellence, comme l'a dit un juriste qui est Alain Supiot. Mais cette activité, du fait qu'elle est très ancienne, elle se répercute dans nos représentations d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, parmi les choses qui insupportent le plus les employeurs américains qui viennent en France ou les employeurs français qui quittent le territoire, il y a des idées du travail chez les salariés, fussent-ils des jeunes salariés, qui sont des idées que l'on va trouver depuis le Moyen-Âge, depuis l'époque moderne, depuis le XVIIIe siècle, depuis le XIXe siècle. En d'autres termes, le travail, c'est à la fois une pratique d'activité productive de près ou de loin, mais en tous les cas de transformation de la nature, et c'est en même temps une série de représentations, et celles des représentations qui sont les représentations de ceux et celles qui aspirent au travail aujourd'hui, sont, qu'ils en aient conscience ou non, des représentations dont une grande partie vient de périodes tout à fait anciennes et relève soit des usages, soit des traditions, soit de la culture orale, mais soit aussi de choses qui sont reportées par le droit, qui sont encore de l'ordre de l'inconscient. Donc, ça, c'est ce qui relève véritablement, pour moi, de la longue durée. Mais j'ai parlé de représentation et j'ai dit qu'une partie des représentations venait des personnes qui sont au travail ou qui aspirent à être au travail. Mais une autre partie de ces représentations viennent d'ailleurs. Alors, elles viennent des employeurs, elles viennent d'autres catégories et je voudrais simplement insister, même si il y a un rapport de travail qui est un rapport pour partie de domination, elles viennent d'un troisième groupe. Et ce troisième groupe, ce sont des gens que j'appelle des fabricants de représentation. Il y a les politiques, il y a les hommes et les femmes du pouvoir judiciaire, il y a les médias, il y a le monde de l'éducation. Et donc, les représentations que les aspirants au travail, ceux qui sont privés de travail et ceux et celles qui sont au travail ont, sont le fruit de ces traditions, le fruit de leur perception propre, individuelle ou collective, par petit groupe, par cadre régional, par lien au pays d'origine, par nouvelle vision du monde, et en même temps, un rapport complexe, heurté, changeant avec et les dominants et tout le groupe de ceux et celles qui vont contribuer aux représentations. Ça, c'est ma première remarque d'historien. Deuxième remarque, qu'est-ce que c'est que cette notion de valeur travail ? D'où vient-elle et quand s'est-elle formée ? Alors, on pourrait dire que cette notion de valeur travail est très différente selon les pays et selon les continents. Et qu'on aurait cette discussion devant un public de Japonais et Japonaises, la discussion, ou de Chinois ou d'Indiens, la discussion ne serait pas du tout la même. Donc, je veux vraiment dire que la discussion que nous avons est une discussion qui est complètement ciblée et qui est cadrée sur la France. Mais les historiens, dans la période récente, et aussi bien les travaux d'un historien américain, Ken Pomerantz, sur les relations entre la Chine et l'Europe au XVIIIe siècle, que le dernier numéro de la revue Le Mouvement Social sur Travail et Mondialisation, ont montré que nos catégories ne sont pas des catégories universelles. C'est le travail qui est universel. Mais les catégories de représentation du travail, elles, sont tout à fait variées, tout à fait variables selon les pays et dans le temps. Je reste dans le cas de la France et je me demande à quel moment on peut dire qu'on a vu émerger la question d'une valeur du travail. Et ici, je me réfère à un livre tout à fait récent, qui est le livre d'un collègue de l'École des hautes études, Mathieu Arnoux, qui s'appelle « Le temps des laboureurs », qui vient de sortir chez Albin Michel. Et Mathieu Arnoux nous change complètement l'idée que nous avions sur les origines des représentations contemporaines du travail. L'idée que nous avions était une idée qui venait d'une des étymologies possibles du mot « travail » et qui donnait une vision très négative du travail assimilé par son étymologie latine à une torture. Et Mathieu Arnoux défend une idée tout à fait inverse. Il nous dit ceci, dans les sociétés anciennes et au tout début du Moyen-Âge, les valeurs supérieures de la société, c'était les guerriers ou les prêtres. Et au fond, il n'y avait que ces deux catégories dans une société occidentale. Et il nous dit, c'est à partir du XIe siècle qu'on voit apparaître le terme de laboureur. Et laboureur, ça n'est pas d'autres mots latins qui sont les mots artifex, qui sont les mots faber. C'est le paysan qui travaille la terre. Et il nous dit, ce paysan qui travaille la terre, c'est lui qui va devenir le créateur de l'activité, le créateur de la richesse et le créateur de la croissance. Et il nous dit, au fond, le monde que nous connaissons, c'est un monde où une croissance a commencé à se faire à partir de la terre, à partir de l'an 1000, à partir du XIe siècle. Et elle s'est faite, nous dit-il, non pas sur l'injonction des nobles, non pas sur l'injonction des évêques, non pas sur l'injonction des militaires, mais par la volonté individuelle et collective de ceux qui étaient au travail. C'est-à-dire une vision de l'histoire vue d'en bas et, nous dit-il, finalement, la théologie, les textes disponibles venant aussi des juristes, venant des nobles, venant des militaires, venant du pouvoir politique, ils viennent de cette idée que le travail de la terre, le travail des champs, est un travail, est une activité qui est à égalité de noblesse avec celle des ceux qui font la guerre et de ceux qui font la religion. Et de ce point de vue-là, on a quelque chose qui est pour moi extrêmement séduisant parce que cette définition et cette hypothèse ne suppriment pas ni les douleurs du travail, ni l'idée que le manque de travail soit un problème, mais elle signifie qu'il peut y avoir une croissance qui vienne d'en bas et qui ne vienne pas d'en haut, et une certaine idée du travail qui ébranle la société en venant d'en bas et non pas en venant d'en haut. Alors, je vous passerai le reste de la discussion de ce livre pour des raisons de temps qui sont les nôtres, mais au fond, la proposition qui est faite est que ça n'est pas en Hollande au XVIIe siècle ou en Angleterre au XVIIIe siècle que serait née une certaine idée du travail comme facteur de production, comme élément de valeur marchande, mais que c'est finalement une relation entre l'activité collective, le besoin de production, la volonté de vivre mieux, qui est, pour Mathieu Arnoux, dans son livre, l'idée du travail. Ce livre est tout récent, il fait beaucoup de bruit, mais il a l'avantage de nous sortir d'un certain nombre de discussions qui se sont répétées depuis une vingtaine d'années. Troisième point que je voudrais voir avec vous, quand on dit travail, est-ce qu'on parle de travail salarié ? Et la logique que je défends comme historien, comme partisan avec d'autres, dont certains sont présents dans la salle, d'une histoire mondiale du travail, c'est que le travail, c'est toutes sortes de formes d'activité et ça n'est pas uniquement le travail salarié. Le travail salarié, c'est une version contemporaine et encore une version contemporaine sur une partie du globe. Et à l'intérieur de cette partie du globe, encore de façon relativement restreinte, mais il y a toute une série de types d'activités qui sont des activités de travail. Et là, les historiens ont été amenés à rapatrier sous la notion de travail, la notion de travail non libre, la notion de travail sous contrat d'engagisme, c'est-à-dire un contrat extrêmement dur, extrêmement long, mais qui donne néanmoins des droits comme tout contrat, ainsi qu'Antoine Lyon-Caen l'a rappelé, des formes de travail à temps partiel, toutes sortes de formes de travail avec ou sans contrat. Et vous trouverez des exemples chez les historiens qui vous apparaîtront tout à fait paradoxaux, mais qui seront tout à fait mis en évidence, comme l'existence de serfs entrepreneurs, c'est-à-dire des gens qui sont sous statut du servage en Russie au XIXe siècle et qui sont néanmoins entrepreneurs. Et vous trouveriez la même chose à l'île Maurice au XIXe siècle. Je ne raconte pas cela pour faire étalage d'érudition, mais simplement pour dire que par travail, les historiens se sont mis dans les années récentes à entendre toutes sortes d'autres formes de travail que soit le travail permanent sous contrat sur le modèle du travail de 30% des entreprises japonaises depuis les années 50, soit du travail fordiste, mais que c'est fondamentalement la variété des formes de travail qui est l'élément pour nous essentiel dans la caractérisation qui est la nôtre. Alors, à partir de là, il me reste deux questions pour ce débat schématique. Schématique, en ce qui me concerne, c'est moi qui suis schématique. J'ai deux questions. Première question, c'est qu'est-ce que c'est que le rapport entre l'emploi et le travail ? Et là, je suis, par le cheminement que j'ai sommairement résumé, entièrement sur les positions d'Antoine Lyon-Caen. L'emploi, c'est au fond la reconnaissance sociale de l'activité productive et sous des formes diversifiées. Mais l'emploi est une des conséquences du travail. Elle est caractérisée par des formes de statut ou des formes de non-statut, mais la distinction entre emploi et travail n'est pas simplement une distinction intellectuelle, ça n'est pas non plus une question de souffrance ou de bonheur, c'est fondamentalement deux choses. C'est que la discussion dans les sciences sociales des 20 dernières années, pour des raisons d'évidence liées à ce que nous observons de toutes parts, a été dominée par les questions d'emploi. Mais fondamentalement, ce qui nous a le plus manqué, c'est un retour à l'analyse du travail. Deuxième question que je veux poser, c'est est-ce que nous pouvons accepter la caractérisation qui est faite par le sociologue, il y a encore un sociologue de l'École des hautes études, Robert Castel, d'une histoire de la relation de travail qui aurait été la tutelle au Moyen-Âge, le contrat à partir pour la France de 1869 ou 80 selon qu'on suit Alain Cottreau ou d'autres, et le statut lié au contrat collectif ou au statut de l'État lorsqu'a été institué à partir de 1945-46 le statut général de la fonction publique, et idée qui amènerait au fait qu'aujourd'hui nous serions forcément dans une situation de déliquescence, de crise ou de délitement. Et si vous voulez, je dis ce point, mais j'évoque là des questions qui sont essentielles, qui sont dramatiques. Et les propositions que je tire sont que cette caractérisation qui a été séduisante, que j'ai moi-même enseignée, est une caractérisation qui ne va pas bien. Je reviens au livre de Mathieu Arnoux, c'est laboureur. Ils sont peut-être sous tutelle, mais ils nous montrent qu'au niveau local, ils ont une très grande autonomie, une très grande activité. Inversement, toute une série de contrats qui sont présentés comme des contrats protecteurs à l'époque contemporaine sont vécus comme des contrats qui coexistent avec les maladies professionnelles, avec toutes sortes de formes d'aliénation, de harassement et d'atteinte aux libertés de toutes sortes. Alors, loin de moi l'idée de dire qu'il n'y a pas de changement, mais ces changements ne sont pas des changements qui seraient allés progressivement vers le progrès et qui seraient aujourd'hui remis en cause par des attaques contre un ordre immuable.
Thank you.